Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Les grandes affaires criminelles de nos régions, les grands procès, les cold cases, les témoignages, les décryptages, des récits, crimes et mystères, des Alpes jusqu'à Marseille, c'est le podcast Faits divers du Dauphiné libéré. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'un des faits divers les plus marquants et les plus sanglants de l'après-guerre. La tuerie du Sofitel d'Avignon, ou comment un hold-up, raté, a tourné à la prise d'otage, puis au carnage. Le bilan est effroyable, 7 morts, une nuit d'horreur qui 40 ans plus tard conserve de nombreuses zones d'ombre, avec cette question, que s'est-il réellement passé cette nuit d'août 1983, au deuxième étage de cet hôtel du centre-ville ? À l'été 1983, les braquages de grands hôtels se multiplient partout, un peu en France, notamment en région parisienne. Il faut dire que les risques sont minimes et ça peut rapporter gros, très gros même. Encore faut-il bien préparer son coup. L'équipe de malfaiteurs du Sofitel d'Avignon espérait bien se faire la belle avec un joli pactole, mais l'affaire va tourner au fiasco. Ils repartiront les mains vides, mais recouvertes de sang. 5 août 1983, 3h du matin. Avignon, qui vit depuis un mois au rythme de son festival, s'endort. Au Sofitel de la Balance, situé en contrebas du palais des papes rue Férus, le calme règne. Les festivaliers ont regagné leur chambre, mais pas Agnès Buy. En mission pour l'événement, la programmatrice télételle de 31 ans boit un dernier verre au bar. Le pianiste Jean Arognan, qui a remplacé le musicien habituel de l'hôtel, plaque ses derniers accords. Pierre Ancinelli, le chef barman, 25 ans, lui rend ses derniers verres. Dans l'arrière-salle de la réception où se trouvent dossiers, téléphones ou machines à calculer, la réceptionniste Nicole Van Duren, jeune hollandaise de 23 ans, mange un morceau en compagnie du bagagiste René Poul, 28 ans, lui aussi originaire des Pays-Bas. Une bouteille de Côte du Rhône est débouchée. Les deux jeunes employés venus à Avignon pour apprendre les secrets de l'hôtellerie française pendant l'été dînent tranquillement quand, soudain, une sonnette retentit. Un homme se présente à la réception de l'hôtel. C'est un client. Il a appelé quelques heures plus tôt pour réserver une chambre. Il vient donc la récupérer. Nicole commence à remplir la fiche de réservation. René, lui, le conduit au deuxième étage où se trouve la chambre, la 214. Le bagagiste ignore encore en poussant la porte qu'il va au-devant de la mort. En bas, Nicole a été rejointe par Pierre Ancinelli, le barman qui fait sa caisse après une soirée de travail. Il y a aussi le pianiste intérimaire Jean Arognan. Les deux hommes sont venus tenir compagnie à la jeune réceptionniste, vraisemblablement pour éviter de la laisser seule à l'accueil en pleine nuit. Les trois employés sont ensemble dans l'arrière-salle quand, sans qu'ils n'aient le temps de comprendre ce qui leur arrive, ils se retrouvent mis en joue par trois hommes masqués, armés jusqu'aux dents. « Bougez plus ! Ouvrez les coffres !» Ils n'ont pas d'autre choix, il faut obtempérer. L'un d'eux commence à ouvrir le coffre-fort. Derrière la porte en acier blindé, les malfaiteurs tombent sur 24 mini-coffrets métalliques, des cassettes réservées aux clients qui peuvent y déposer bijoux et autres objets de valeur. L'un des braqueurs essaie de forcer un mini-coffret, le troisième à gauche en partant du haut. Il s'agit de celui habituellement réservé au personnel qui peut déposer là ses pourboires. Mais la tâche est bien plus difficile que le commando l'avait sans doute imaginé. Il faut 10 bonnes minutes au malfrat pour réussir à l'ouvrir, à l'aide d'un démonte-pneus. Drôle d'outil pour casser un coffre, l'opération est délicate, longue, et infructueuse, le coffre est vide. Alors les braqueurs s'énervent. « Le directeur doit avoir les clés. Où est-il ? » hurle un voyou en pointant son arme sur les otages terrorisés. « C'est la chambre 202, » murmure l'un d'eux. Ni une ni deux, les malfaiteurs embarquent les employés sous la contrainte et se dirigent vers l'ascenseur. Au passage, ils surprennent Agnès Buy, la programmatrice. Ils lui ordonnent de les suivre. C'est là que tout bascule. 5 août 1983, 3h32 du matin. Le gardien de la paix, Mashura, est en patrouille du côté de la gare lorsqu'il entend un appel radio relatant l'agression d'une femme à l'hôtel Sofitel. La nuit a été calme jusque-là. Le policier, ses collègues de patrouille, le brigadier Lévesque et Marcel Saunier, décident de se rendre sur les lieux. Quand ils arrivent dans le hall, un gardien de la paix, Alfred Salazar, est déjà là. De chaque côté de la réception, deux téléphones sonnent sans arrêt. Salazar décroche. « Allô, police ?» Au bout du fil, une personne complètement affolée.
« Montez vite, ils s'entretuent !»
Mais montez où ? La personne a raccroché. Les policiers se dirigent vers l'ascenseur. Au-dessus des portes, ils remarquent que le numéro 2 du deuxième étage est allumé. Il s'y passe peut-être quelque chose. Salazar, Mashura et Lévesque s'y précipitent. La porte à peine ouverte, ils remarquent des taches de sang sur les portes de deux chambres, la 201 et la 209. Il y a aussi du bruit derrière la deuxième porte. Deux hommes semblent s'engueuler. Les gardiens de la paix tapent à plusieurs reprises. « Police ! Ouvrez !» Soudain, le bruit d'une fenêtre qui s'ouvre. Les occupants seraient-ils en train de s'enfuir ? Les forces de l'ordre ouvrent la porte, mais il est trop tard. Malgré les deux étages qui les séparent du sol, les deux hommes enjambent le petit balcon en fer forgé et sautent, atterrissant 7 mètres plus bas sur le capot d'une Volkswagen garée sous la fenêtre. À l'intérieur de la chambre, les policiers découvrent un véritable carnage. 5 corps sans vie sont étendus sur le sol. Dehors déjà, une course-poursuite s'engage dans les rues du centre-ville d'Avignon. Ils ne doivent pas s'échapper. Sur le point d'être rejoints, les fuyards, des braqueurs devenus des meurtriers, abandonnent leur véhicule à quelques centaines de mètres seulement du Sofitel. Ils se séparent. Le premier parvient à se perdre dans les ruelles du quartier de la Balance. Le second, lui, tombe nez à nez avec le gardien de la paix, Marcel Saunier. Déterminé à se faire la belle, il n'hésite pas un instant. Il saisit son arme, un Luger 9mm qu'il pointe en direction du policier. Il appuie sur la détente. Le chargeur est vide, ou plutôt manquant. Au moment de s'évader par la fenêtre, il la fait tomber. Une chance pour Marcel Saunier qui croit bien la vivre ses derniers instants. Le gangster n'est pas pour autant résigné. De colère, il jette son pistolet au visage du policier qu'il blesse légèrement. Un autre gardien de la paix, Mashura, assiste à la scène et tente à son tour de barrer la route de l'individu. Il lui intime l'ordre de s'arrêter. Il le vise avec son arme. « Les mains en l'air ! Allez !» Mais encore une fois, le suspect ne se laisse pas faire. Et il fonce en direction du policier armé. Il s'est mis à avancer vers moi. Voyant qu'il ne s'arrêterait pas et sachant que désormais son pistolet était vide, puisque par deux fois je venais de le voir appuyer sur la détente en vain contre Marcel, j'ai laissé venir. J'ai vu gros comme ça l'espace entre ses bras, sa ceinture et ses épaules. Un coup de savate là au milieu et il s'effondrait par terre.
Raconte le policier adepte du karaté au lendemain du braquage.
À terre, le truand est maîtrisé par les forces de l'ordre et lance, rageur. Dommage que je n'ai plus eu de cartouche, sans cela c'était la guerre. La guerre, les scènes de guerre, comme au deuxième étage du Sofitel.
Retour sur place. La consternation, le choc, l'horreur. C'est un véritable bain de sang. Dans la chambre 209, celle par laquelle deux braqueurs se sont enfuis, trois femmes gisent sur le lit, exécutées à bout portant d'une balle dans la nuque. Dans la salle de bain, deux hommes, assassinés de la même manière. Les victimes sont rapidement identifiées. Il s'agit de la réceptionniste Nicole Van Duren, du pianiste Jean Aronian, de la programmatrice Agnès Buis et des deux clients qui occupaient la chambre, Lucien André, 60 ans, consul de France en Allemagne de l'Ouest, et son ami Geneviève Guillem, 45 ans. Mais les policiers n'ont pas fini d'ouvrir leur macabre découverte. Chambre 201, sous la porte de la salle de bain, du sang coule. C'est celui de Pierre Ancinelli, le chef barman de 25 ans, égorgé et criblé de balles. À l'autre bout du couloir, chambre 214, le corps du bagagiste René Poule est retrouvé à son tour, abattu d'un coup de fusil. 7 victimes, 4 employés et 3 clients. Les corps, le sang, l'odeur. La scène est difficilement soutenable, même pour des policiers chevronnés. Xavier Richaud, premier substitut du procureur de la République d'Avignon, est tétanisé lorsqu'il découvre de ses yeux l'effroyable bilan.
Je n'avais jamais connu un crime de ce niveau, confiera-t-il bien des années plus tard. Passé le choc et l'émotion, les enquêteurs, placés sous l'autorité du patron régional de la police judiciaire de Montpellier, le commissaire Yves Bertrand, cherchent à comprendre ce qu'il s'est passé, comprendre comment une nuit d'été si calme a pu virer au cauchemar. Les policiers ne veulent écarter aucune piste, mais d'après les premières constatations et les éléments recueillis, la thèse du hold-up qui a été générée semble la plus plausible. Les gangsters se sont-ils affolés ? Un témoin a-t-il tenté d'intervenir ? Les otages ont-ils cherché à trouver refuge dans une chambre afin d'échapper à leurs ravisseurs ? Un scénario semble se dessiner. Après la tentative infructueuse des braqueurs de forcer le coffre-fort à l'aide du démonte-pneus, ils se retrouvent donc au deuxième étage avec tous leurs otages pour se procurer le jeu de clés du coffre que possède le directeur. Là-haut, le barman aurait été conduit, chambre 201, pour y être interrogé à l'aide d'un couteau. L'autopsie confirmera des blessures à la gorge. Le malheureux se serait débattu avant de se réfugier dans la salle de bain, mais alors qu'il se vide de son sang, Pierre Ancinelli, marié et père d'une petite fille de 5 mois, tente de puiser dans ses dernières forces pour appeler au secours. Pendant ce temps, René, le bagagiste, serait lui parvenu à échapper à la vigilance des braqueurs pour se réfugier dans la chambre 214. Se saisissant du téléphone pour appeler la police, il est fauché par une balle de fusil. Il meurt sur le coup. Les fauves ont goûté au sang, plus rien n'arrêtera le carnage. De retour dans la chambre 201, les tueurs enfoncent la porte de la salle de bain dans laquelle s'était enfermé le barman. Ils la battent d'un coup de fusil à pompe à canon scié. Des détonations, des cris, des hurlements. C'est probablement ce vacarme qui a poussé Lucien André, consul de France à Sarrebruck, à ouvrir la porte de sa chambre. Les otages y sont-ils précipités pour essayer de se protéger ? Les ravisseurs les ont-ils contraints à y entrer ? Difficile pour les enquêteurs d'être catégoriques. Ce dont ils sont sûrs, en revanche, c'est que la chambre 209 s'est transformée en peloton d'exécution. Alignés debout, les uns à côté des autres, de dos et les bras levés, les otages s'écroulent tour à tour, tués d'une balle dans la nuque, avec un sang-froid diabolique. Les faits ont duré une vingtaine de minutes, et plusieurs points demeurent obscurs. L'arrestation de l'un des suspects pourrait bien faciliter la tâche des enquêteurs. Car ils ont désormais un nom, ou plutôt une véritable identité. Lors de son interpellation, l'homme dit s'appeler Jean Ponce et être âgé de 33 ans. Des papiers sont retrouvés sur lui qui corroborent ses propos. Mais les policiers doutent de sa sincérité. Leur intuition est la bonne. Quelques heures après la tuerie, ils découvrent que le fou furieux s'appelle en réalité Jean Roussel, dit Chounet. Originaire de Barbentane dans les Bouches-du-Rhône, l'homme est loin d'être un tendre. Repris de justice, très connu des services de police, le truand âgé de 38 ans a déjà été impliqué dans plusieurs affaires importantes dans la région. Vol de voiture, cambriolage, braquage, bref, un sacré pédigré. Mais en épluchant son dossier, les policiers vont faire une découverte de taille. Roussel fait l'objet d'un avis de recherche. Condamné en 1976 par la cour d'assises de l'Isère à 15 ans de réclusion criminelle pour le hold-up de la poste de Saint-Paul-les-Romans dans la Drôme, il purge sa peine à la maison centrale de Clairvaux dans l'Aube. Le braqueur a bénéficié d'une permission de sortie de quelques jours pour aller rendre visite à sa mère malade à Barbentane, sa première perme après 9 années de détention. Il aurait dû réintégrer sa cellule le 31 juillet, mais pas de signe de Chounet pendant plusieurs jours. Personne ne sait où il est passé, jusqu'à cette nuit du 5 août. L'enquête avance, Roussel a monté le coup du Sofitel en espérant bien décrocher le pactole pour, sans doute, financer sa cavale. Les policiers apprendront plus tard que le gangster a rencontré une jeune fille et qu'il n'avait aucune intention de retourner en prison. Mais le suspect, que les policiers décrivent comme hargneux et agressif, refuse de reconnaître les faits. « Je n'étais pas présent au Sofitel », assure-t-il lors de sa première audition. Mais les enquêteurs ne se démontent pas. Si Roussel ne veut pas parler, alors les indices le feront pour lui. Ils en sont sûrs. En plus du suspect arrêté, ce sont deux, voire trois autres hommes qui ont participé au hold-up. À l'intérieur de l'hôtel, les experts balistiques s'affairent. En plus du Luger P08 9 mm du suspect arrêté, deux autres armes, un Magnum 357 Uberti et un fusil à pompe calibre 12 à canon scié sont retrouvés, ainsi qu'une dizaine de balles et trois paires de gants. Sur Roussel, les enquêteurs ont également mis la main sur des clés de voiture, une Opel Record retrouvée devant un magasin de lingerie face à l'entrée principale de l'hôtel et dont le vol avait été signalé à Cavaillon la veille de la tuerie. À l'intérieur, les policiers vont trouver de nouveaux éléments compromettants contre Roussel et ses probables complices,
D'abord une clé de chambre du Sofitel, celle de la 214. Voilà la version de Roussel une nouvelle fois mise à mal, lui qui assurait ne pas avoir mis les pieds à l'hôtel. Un des membres du commando a donc bien effectué des repérages des lieux. Dans la voiture, les policiers vont aussi découvrir des cartouches, des vêtements, une chemise tachée de sang, un foulard vert et surtout, des papiers d'identité. Et pas n'importe lesquels, ceux d'un certain Jacques Gouttenoir. Né en Isère au milieu des années 40, Gouttenoir est une vieille connaissance de la police. Proxénète notoire, racketteur à ses heures perdues, il avait été surpris en janvier 76 par une patrouille de gardiens de la paix à Lyon au moment où il s'apprêtait à incendier une crêperie. Poursuivi, il n'avait pas hésité à tirer sur les policiers sans les atteindre. Un gardien de la paix avait riposté, le blessant de 2 balles dans une cuisse. La cour d'assises du Rhône l'avait condamné à 6 ans de prison. Le CV du bonhomme laisse peu de place au doute. Gouttenoir pourrait être impliqué dans la tentative de hold-up sanglant du Sofitel. Il faut absolument mettre la main sur lui, et vite. Vu les faits qui lui sont reprochés et sa dangerosité, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice donnent leur feu vert pour la diffusion de sa photo dans la presse. Ils ne le savent pas encore, mais il est déjà trop tard. Dimanche 7 août, vers 7h, le soleil se lève doucement sur la Provence lorsqu'un promeneur aperçoit quelque chose dans un petit canal en bordure de la RN70, entre Arles et les Saintes-Maries de la Mer. C'est un corps, le corps d'un homme, nu, qui flotte entre 2 eaux. Prévenu, la gendarmerie d'Arles se rend sur place. Les médecins légistes constatent sur la victime plusieurs blessures par balle, à la tête et à la poitrine, ce qui exclut l'hypothèse d'un suicide. À côté du cadavre, les enquêteurs trouvent un magnétophone et une cassette de Vivaldi, comme si le tueur avait voulu l'exécuter en musique. Un banal règlement de compte. Coup de théâtre en fin d'après-midi, le corps repêché tôt le matin est peut-être bien celui de Jacques Gouttenoir. Âge, taille, poids, tout correspond à la description de l'avis de recherche lancé la veille. Alerté par leurs collègues, la PJ transporte aussitôt Roussel à la morgue de Tarascon pour reconnaître le corps. Il s'agit bien de Gouttenoir. Ce nouveau rebondissement donne raison aux enquêteurs qui pensaient que 3 hommes avaient fait le coup de l'hôtel Sofitel. Mais alors, qui a bien pu tuer Gouttenoir? Et surtout, pourquoi? Le sachant identifié par la police, le 3e homme n'a-t-il pas hésité à le supprimer pour éviter que l'on remonte jusqu'à lui? Les policiers ont une autre théorie. L'autopsie pratiquée révèle que le malfaiteur avait une cheville fracturée, blessure qui ne peut être occasionnée qu'en sautant de haut en bas. Gouttenoir est donc le 2e homme qui a sauté par la fenêtre de l'hôtel en compagnie de Jean Roussel. L'enquête révèle également que Gouttenoir a été blessé par balle au thorax durant la fusillade du Sofitel. Une blessure sans gravité, mais qui explique les traces de sang retrouvées par les enquêteurs alors qu'ils suivaient la piste des fugitifs. Pour les gendarmes, Gouttenoir blessé était devenu trop encombrant pour son ou ses complices de fuite. Tel un boulet au pied, dont ils n'ont pas hésité à se libérer, le soir même de la tuerie aux alentours de 23h d'après l'autopsie. Gouttenoir aurait donc été achevé dans une voiture, avant d'être balancé dans le canal. Deux jours après l'effroyable tuerie qui a coûté la vie à 7 personnes, l'enquête risque de piétiner. Avec la mort de Gouttenoir, les policiers perdent là un témoin clé, eux qui ont toujours du mal à retracer précisément les événements de cette nuit de carnage. Et il ne faut pas compter sur Roussel pour les aider. Interrogé plusieurs heures au commissariat d'Avignon et présenté au juge d'instruction qui l'a inculpé pour homicide volontaire et tentative de vol qualifié, le braqueur persiste à se taire. Niant toute participation à la tuerie, même s'il reconnaît finalement avoir bien été au Sofitel ce soir-là, et même s'être rendu dans les 3 chambres où ont été découvertes les victimes. Les taches de sang sur ses vêtements? Le corps de Pierre Ancinelli a basculé sur lui quand il a ouvert la porte de la chambre 201, affirme-t-il. Interpellé quelques heures après lui, son père, qui se prénomme aussi Jean, son frère Vincent, avec lequel il a commis un hold-up dans le passé, son autre frère Denis, ainsi que sa sœur Mireille ne sont pas plus bavards. Ils sont relâchés à l'issue de leur garde à vue. Les résultats des autopsies et des expertises scientifiques et techniques auraient déjà pu permettre aux enquêteurs de mieux cerner les circonstances de la tuerie et le rôle joué par chacun des protagonistes. Mais, aussi étonnant que cela puisse paraître, surtout dans une affaire de cette importance, le médecin légiste qui, dès le matin du drame par le substitut du procureur de la République, a interrompu son travail pour partir en week-end avec sa famille. Un retard fâcheux qui provoque un véritable scandale à Avignon. Malgré un suspect peu coopératif et l'absence d'éléments très importants que pourraient amener les autopsies, les policiers poursuivent leurs investigations. Celles-ci sont orientées vers le milieu lyonnais, Jacques Gouttenoir en est un habitué, ainsi qu'un certain Jacques Paris. Les enquêteurs ont appris que ce dernier, un truand sans envergure de 35 ans, déjà condamné à de multiples reprises, a été vu 36 heures avant la tuerie du Sofitel dans un restaurant de la Grande Motte, une station balnéaire située dans l'Hérault, en compagnie de Roussel et de Goutte Noire. Une coïncidence qui ne manque pas d'intérêt. Questionné sur le dénommé Paris et sur ce dîner, Roussel ne balance pas. Il indique juste aux enquêteurs que Goutte Noire était arrivé du Rhône avec un homme. S'il est encore trop tôt pour dire que Jacques Paris est le troisième membre du commando, les policiers veulent l'entendre. Considéré comme un témoin important, un avis de recherche est lancé sur l'intégralité du territoire. Les policiers font passer l'idée que, après avoir côtoyé les tueurs fous, la vie de Jacques Paris est en danger. Mais celui-ci est introuvable. La R5 Alpine Turbo, avec laquelle il se serait échappé, est retrouvée abandonnée à la Grande Motte. Mais toujours pas de traces de Paris. Recherché par toutes les polices de France, celui qui est devenu l'ennemi public numéro 1 semble avoir peur. C'est en tout cas ce qu'il confie au téléphone à une amie qui le supplie de se rendre.
Non, je ne veux pas me rendre. Je ne veux rien dire. J'ai peur. Ils sont à mes trousses.
Mais de qui peut-il bien parler ? De la police ? Ou bien d'un quatrième homme, et peut-être d'autres, bien décidés à le liquider ? 5 jours après le drame, le suspect court toujours. Des rumeurs disent qu'il aurait pris la direction de l'Espagne, d'autres qu'il aurait traversé la frontière suisse via Collonges-sur-Salève en Haute-Savoie, où vit son ex-femme. Du côté de l'enquête, les autopsies pratiquées sur les victimes de la tuerie permettent enfin d'en savoir plus. Hormis le bagagiste René Poul et le barman Pierre Ancinelli, blessés à coups de fusil à canon scié avant d'être égorgés, les 5 autres victimes ont succombé à des projectiles de 9 mm, ce qui correspond à l'arme récupérée sur Roussel. En revanche, impossible pour les spécialistes de déterminer dans quel ordre les malheureux ont été abattus. Il s'est écoulé trop peu de temps entre chaque meurtre pour pouvoir le déterminer. Le 12 août, nouveau rebondissement, Jacques Paris s'est arrêté à Montpellier, dans un café situé à quelques dizaines de mètres du palais de justice. Après une semaine de cavale, le truand lyonnais, fatigué, a décidé de se présenter spontanément à la justice sur les conseils d'un ami qui le planquait jusque-là. « Je n'ai rien à voir avec cette affaire !» lance-t-il au journaliste massé devant le commissariat central. Les policiers pensaient enfin tenir leur troisième homme. C'est une nouvelle fois raté. Paris était à Montpellier dans la nuit du 4 au 5 août, en compagnie d'une jeune femme, un alibi en béton, confirmé par plusieurs témoins. C'est donc libre qu'il quitte l'hôtel de police d'Avignon après 28 heures de garde à vue. Les enquêteurs doivent repartir de zéro, ou presque, avec cette foutue question. Mais qui peut bien être ce troisième homme ? Les investigations sont en perte de vitesse. Les inspecteurs du SRPJ, bien déterminés à faire toute la lumière sur cette tragédie, ne veulent négliger aucune piste. Ils poursuivent leurs vérifications et enquêtes de routine. D'ailleurs, on apprend que le commissaire Yves Bertrand avait, le 5 août, jour de la tuerie, chargé 2 agents de la brigade financière de Montpellier de s'informer sur le passé juridique et financier du groupe d'entreprises propriétaire notamment du Sofitel Pont d'Avignon. On apprend aussi que leurs collègues de Marseille et Avignon enquêtaient déjà sur le sujet depuis 1982. Les policiers regardent également du côté des victimes, notamment Lucien André, le consul de France à Sarrebruck. La présence d'un homme de son importance dans l'hôtel le soir du drame ne peut-elle être qu'une funeste coïncidence ? Ou bien était-ce lui la véritable cible du commando ? Son assassinat a-t-il été commandité, ou les braqueurs projetaient-ils tout simplement de le dépouiller d'une somme importante qu'il aurait transportée ? Tant de questions rapidement balayées, car c'est tout à fait par hasard que Lucien André avait décidé de loger ce soir-là au Sofitel d'Avignon. En vacances, il avait décidé de se rendre en Corse chez des amis en compagnie de Geneviève Guillaume et de ses 2 enfants. Avant de rejoindre l'île de Beauté, Lucien André avait prévu de passer la nuit sur le continent, mais à Aix-en-Provence, où il avait réservé une chambre dans un grand hôtel, il avait finalement opté au dernier moment pour Avignon, à la demande des enfants. L'enquête tourne au ralenti, la polémique enfle. Comment a-t-on pu accorder une autorisation de sortie à un individu tel que Roussel ? Comment a-t-on pu être aussi clément avec un détenu qui a déjà passé 9 années en détention, dont plusieurs en QHS, quartier de haute sécurité ? Médiatisé quelques années plus tôt par Jacques Mérine, rien que ça, qui réclamait leur fermeture, les QHS étaient des départements carcéraux réservés aux prisonniers considérés comme dangereux, où les mesures de sécurité étaient plus poussées. Ils ont été supprimés en février 1982 par Robert Badinter à leur garde des Sceaux. Il n'en fallait pas plus à certains pour pointer la responsabilité de l'État dans le massacre. Tuerie d'Avignon, la faute à Badinter, titre sans sourciller le quotidien de Paris, tandis que des cadres de l'opposition transforment sans vergogne cette tragédie en affaire politique.
Même le maire RPR d'Avignon, Jean-Pierre Roux, fait adopter par son conseil municipal le principe d'une action en justice en vue de déterminer la responsabilité de l'État dans cette affaire qui a meurtri sa ville. Si l'USRPJ de Montpellier semble dans l'impasse, les collègues gendarmes de la brigade des recherches d'Arles avancent dans leur enquête sur l'assassinat de Jacques Boutenoir. Fouillant sans relâche dans le passé du truand lyonnais, ils font une découverte plutôt intéressante. Quelques mois avant la tuerie d'Avignon, Boutenoir a commis un hold-up dans une banque des Bouches-du-Rhône en compagnie de deux autres hommes, armés du fusil à canoncier retrouvé dans l'une des chambres du Sofitel, ce qui confirmerait donc la thèse du casse qui a mal tourné. Remontant jour après jour l'emploi du temps du malfrat abattu par son complice, les gendarmes parviennent à identifier les milieux puis les personnes que fréquentait Boutenoir dans la région. Après avoir confronté leurs résultats avec ceux des policiers du SRPJ, un nom retient l'attention des enquêteurs, celui de Gérard Roland. Ce petit malfrat, employé la journée dans une société de meubles et videur dans une boîte la nuit, a fait la connaissance de Boutenoir un an plus tôt à la prison Sainte-Anne d'Avignon, où il purgeait une peine pour escroquerie. Pour les enquêteurs, il pourrait être le troisième membre du commando, celui avec qui Boutenoir a pris la fuite le matin du drame. Le 22 septembre, il est interpellé à l'aube lors d'un vaste coup de filet dans un bar de Tarascon, le Provençal. D'après les informations recueillies par les gendarmes, Boutenoir s'est rendu quelques heures après le braquage du Sofitel dans ce bar, en compagnie de Roland, afin de se faire soigner par un rebouteux connu pour son amitié avec Jean Roussel. Mais devant la gravité des blessures, le rebouteux recommande au truand lyonnais de se faire hospitaliser. C'était bien la dernière chose qu'allait faire Boutenoir dans sa situation. Il se planque alors chez une autre connaissance, François Arpineau, un ferrailleur au chômage, lui aussi passé par la casse-prison pour avoir fait construire sa maison avec des matériaux volés. On est une nouvelle fois loin du grand banditisme. Recueilli par Arpineau et sa femme, Jacques Boutenoir souffre, il hurle de douleur au moindre mouvement, même l'importante quantité d'alcool qu'il ingurgite ne parvient pas à calmer ses maux. Durant l'examen médico-légal, le médecin découvrira d'ailleurs 3 grammes d'alcool dans le sang du Lyonnais. Excédé, Roland et Arpineau prennent une décision radicale, il faut le faire taire, définitivement. En fin d'après-midi, déterminés, les deux hommes transportent Boutenoir complètement ivre dans une voiture jusqu'au bord d'un canal d'irrigation près d'Arles. Alors qu'ils sont encore dans le véhicule, Roland sort son arme et abat de plusieurs balles son complice. C'en est fini de l'encombrant Jacques, on n'entendra plus gémir. Il est ensuite déshabillé, histoire d'éviter qu'il soit identifié trop facilement, puis jeté dans le canal. Voilà pour le scénario de l'assassinat de Boutenoir. Une version plus ou moins confirmée par Arpineau lors de sa garde à vue, qui reconnaît avoir hébergé les deux braqueurs. Quand je les ai vus arriver le 5 au matin, j'ai tout de suite compris que ça avait mal tourné. Boutenoir était blessé à la cheville, et il commençait à souffrir. Arpineau savait que Roussel et ses amis préparaient un hold-up. Il avait même été un moment sollicité par Roussel pour faire partie de l'équipe. Il avait refusé pour continuer à exercer son métier de ferrailleur. Mais si Arpineau se montre être le suspect le plus prolixe depuis le début de l'enquête, ses déclarations sont loin d'être toutes identiques. Après avoir chargé Roland sur le meurtre de Boutenoir, voilà qu'il insinue que Jean Roussel père est l'auteur de l'exécution du truand lyonnais. De son côté, Gérard Roland lui nie toute implication de près ou de loin dans le drame du Sofitel et les événements qui ont suivi. Malgré les confrontations répétées avec Arpineau, il ne craque pas, reconnaissant seulement connaître Jean Roussel et Jacques Boutenoir. Mais les gendarmes et les policiers assurent détenir assez d'éléments contre lui pour étayer sa culpabilité, et après Roussel fils, Arpineau et Roland sont inculpés de recel de malfaiteurs. Quelques jours plus tard, c'est au tour de Jean Roussel père, de sa fille Denise et du compagnon de celle-ci, chez qui une chemise tachée de sang que portait Boutenoir a été retrouvée lors d'une perquisition, ainsi que d'une autre petite frappe, d'être placée derrière les barreaux. Après un mois et demi d'enquête, les policiers en sont certains. Tous les protagonistes de cette nuit tragique du 5 août sont entre les quatre murs d'une cellule ou les quatre planches d'un cercueil. Reste à déterminer le rôle et la responsabilité de chacun, mais entre ceux qui ne disent rien et ceux qui changent de version à chaque interrogatoire, la tâche s'annonce ardue pour les enquêteurs du SRPJ de Montpellier qui ont récupéré l'intégralité du dossier. Après avoir dégrossi les grandes lignes, ils vont devoir s'attacher aux plus petits détails, vérification après vérification, pour essayer enfin de savoir ce qu'il s'est réellement passé au deuxième étage du Sofitel. Ils pourraient bien y parvenir grâce à François Arpineau, encore lui. Car pour les policiers et le magistrat instructeur, le ferrailleur de 48 ans est en effet loin d'avoir tout dit. S'il est l'inculpé le plus bavard, n'hésitant pas à balancer sur Roussel et sa famille, les enquêteurs doutent de sa sincérité lorsqu'il assure ne pas avoir pris part au hold-up sanglant ou au meurtre de Boutenoir. Le juge d'instruction tente de le faire craquer, mais Arpineau aussi est un coriace. Il s'en tient à sa version, Oui, il était au courant qu'un coup se préparait au Sofitel d'Avignon, mais non, il n'y a pas pris part. Et oui, il a aidé Goutte Noire alors qu'il était blessé, mais seulement par solidarité. Et surtout, il l'assure, Goutte Noire était toujours en vie au moment où ils se sont quittés. Un témoignage qui a toujours autant de mal à convaincre. Le 22 novembre, la juge d'instruction Françoise Alliot est derrière son bureau lorsqu'on lui transmet une lettre qui lui est adressée. Elle vient de la prison de Sainte-Anne à Avignon. Elle l'ouvre et n'en croit pas ses yeux. C'est Roussel, le fils, qui lui écrit. Il affirme vouloir passer aux aveux et qu'il a des révélations importantes à faire sur la nuit du 5 août. Que peut-il bien avoir à lui dire ? Après des mois de dénégation, va-t-il enfin reconnaître avoir participé à la tuerie ? Lui raconter en détail ce qu'il s'est passé dans les chambres 201, 209 et 214 du Sofitel ? Sauf que rien n'est jamais simple avec Roussel. Il affirme qu'il n'aurait été que le bras d'un cerveau qu'il aurait chargé d'exécuter Lucien André, le consul de France à Sarrebruck. Ce dernier détenait des documents importants dans une mallette qu'il ne quittait jamais. Une thèse qui fait sourire les policiers et les gendarmes de la région d'Avignon. Ils le connaissent bien, Roussel. Jamais il n'aurait été approché par le milieu ou une autre organisation pour une telle opération. Trop instable, trop dangereux, écrivons-le, trop fou, il n'a pas la trempe. Et puis Tchouné, comme l'appellent ses amis, était en cavale depuis une semaine. Peu de chance que dans une telle situation, on lui confie une mission si délicate. Et puis, les enquêteurs savent que le diplomate a décidé de coucher à Avignon au dernier moment. Tant d'éléments qui font penser que cette histoire de complot n'est pas crédible une seconde. Les semaines passent, et Roussel s'enferme dans les contradictions et les explications fumeuses, il livre une nouvelle version du déroulement du carnage, il donne même le nom de 5 complices avec qui il aurait fait le coup. Si Goutte Noire faisait bien partie du commando, en revanche, il discute par Pinot, Roland, son père, sa sœur et son compagnon Vincent Picone et dénonce d'autres truands qui seraient toujours en cavale. Sa tentative de blanchir ses co-inculpés échoue, ni le juge d'instruction ni les policiers ne prennent ses déclarations au sérieux. Le dossier suit son parcours judiciaire, les allers-retours dans le bureau du juge d'instruction des 3 principaux suspects, Jean Roussel, François Arpinot et Gérard Roland n'ayant rien donné. Il reste une dernière chance avant le procès de connaître le véritable déroulement de la tuerie. Le 23 avril 1985, près de 2 ans après les faits, une reconstitution est organisée au Sofitel de la Balance. Mais encore faut-il que les 3 inculpés veuillent bien descendre de leur fourgon cellulaire. Alors qu'Arpinot et Roland, qui continuent de nier toute implication, ont déjà annoncé qu'ils ne participeraient pas à la reconstitution, Roussel, lui, fait du chantage. « Je n'accepterai de venir au Sofitel que dans la mesure où vous me retirerez les menottes des chevilles et des poignets. » Mais peut-on lui faire confiance ? S'il n'est plus entravé par ses chaînes, n'y a-t-il pas un risque qu'il tente de s'échapper, lui qui a déjà essayé de se faire la belle lors d'un transfert vers le bureau du juge d'instruction quelques semaines après son interpellation ? Pour éviter toute tentative de fuite, d'importantes mesures de sécurité sont prises. Plus de 200 policiers mobilisés, chargés de boucler le quartier, mais surtout de surveiller Roussel. Les tireurs d'élite sont postés à différents endroits, parés à toute éventualité. À 23h, la reconstitution débute. Et comme on pouvait s'y attendre, Arpinot et Roland refusent d'y prendre part. Ils repartent au bout de quelques minutes. Jean Roussel, lui, demande 3 quarts d'heure de repos. Ça commence bien. Après 1 quart d'heure de négociation avec le juge d'instruction et ses avocats, il accepte finalement de participer à la reconstitution, enchaîné à un inspecteur de la PJ. Mais comme avocat, magistrat, policier ou encore témoin le craignait, la reconstitution tant attendue n'apporte pas les éléments qu'ils espéraient. Roussel fait son cinéma. Jusqu'à présent, je vous ai raconté n'importe quoi. Ce soir, je vais tout vous dire. Cette fois-ci, il prétend avoir été braqué puis forcé d'ouvrir un coffre-fort par l'un de ses complices, un certain Aimé Berthiaud, un mystérieux personnage qui n'a pas pu être retrouvé et qui a disparu depuis 10 ans. Roussel reconnaît avoir assisté à certaines exécutions, mais il ajoute aussitôt « Je n'ai pas tiré !» Et l'arme que l'on a retrouvée sur lui alors ? On lui aurait donné dans la chambre 209. Lorsque je suis arrivé, les cadavres s'y trouvaient déjà. Tout cela n'est une nouvelle fois pas très convaincant, il n'y a rien à en tirer, Roussel est ramené à sa cellule avant même la fin de la reconstitution. ...8 octobre 1985, en charge de l'instruction de la tuerie du Sofitel depuis plus de 2 ans, Françoise Alliot s'apprête à clôturer le dossier de Jean Roussel avant de le renvoyer devant la cour d'assises de Vaucluse. Comme le veut la procédure, la magistrate doit s'entretenir une dernière fois avec le suspect pour lui faire un résumé de l'affaire et lui signifier les charges retenues contre lui. Le rendez-vous est prévu à 15h, une ultime confrontation après des mois et des mois de bras de fer. Roussel n'a jamais été très coopératif,
refusant notamment de procéder à la reconnaissance des scellés ou encore de marcher pour se rendre de sa cellule au fourgon cellulaire et du fourgon jusqu'au bureau de Françoise Alliot. Pendant quelques semaines, les gardiens de la paix avignonnais ont donc été obligés de porter le truand sur une chaise pour le conduire au palais de justice. Désormais incarcéré à la prison des Baumettes à Marseille, Roussel est extrait de sa cellule, puis emmené au palais de justice d'Avignon dans un fourgon de gendarmerie. Les gendarmes qui l'accompagnent gardent un œil sur lui tout le long du trajet. Le matin, lors de la fouille de sa cellule, les gardiens des Baumettes ont découvert un couteau caché sous son matelas. Le projet d'évasion semble toujours dans un coin de la tête du truand. Il faut redoubler de vigilance. Le fourgon n'est plus qu'à quelques kilomètres des remparts d'Avignon. Roussel s'assoupit. Arrivé devant le palais de justice, les gendarmes lui font signe de sortir. Roussel ne réagit pas. Les nuits peuvent être compliquées en prison, peut-être s'est-il endormi profondément. Il tente donc de le réveiller. En vain, le truand s'affaisse sur son siège, puis s'effondre sur le plancher du fourgon. C'est la stupéfaction chez les gendarmes. Roussel est en train de mourir devant eux. Le chef d'escorte envoie un gendarme prévenir la juge d'instruction, mais l'on se méfie tout de même. Roussel ne serait-il pas en train de simuler un malaise pour s'évader? Il en serait bien capable, lui qui a juré qu'il ne finirait pas en prison. Les gendarmes décident de ne prendre aucun risque et laissent le truand pieds et mains liés. Alertés, les pompiers et un médecin réanimateur arrivent rapidement sur place, mais Roussel semble déjà dans le coma. Ils essaient de le réanimer, défibrillateur, massage cardiaque répété, les secours font le maximum, mais il n'y avait plus rien à faire. Il est 15h25, Jean Roussel, 41 ans, est mort, terrassé par une crise cardiaque. Des questions se posent. Comment cet homme qui apparaissait en pleine forme physique a-t-il pu être foudroyé par une crise cardiaque? Certains évoqueront l'hypothèse d'une surdose de barbiturique, ce qui expliquerait qu'il se soit assoupi à l'intérieur du fourgon. Roussel aurait ingurgité ces médicaments qu'il se serait procurés en prison pour tenter une nouvelle évasion lors de son transfert à l'hôpital, mais il aurait eu la main trop lourde, ce qui aurait provoqué son décès. À l'annonce de la nouvelle, c'est le choc. Le principal témoin et suspect du hold-up le plus sanglant de l'histoire de France ne sera jamais jugé. Avec sa mort, les chances de connaître la vérité sur ce qu'il s'est passé le 5 août 1983 au deuxième étage du Sofitel s'envolent quasiment définitivement. Jean Roussel mort, c'est l'intégralité ou presque du dossier que l'on enterre, prononce même son avocat. Un coup de massue terrible pour les familles des victimes, qui attendent malgré tout le procès de pied ferme. 11 juin 1987, près de 4 ans après les faits, le procès de la tuerie du Sofitel d'Avignon s'ouvre devant la cour d'assises de Carpentras. Un procès hors norme pour une affaire qui ne l'est pas moins. Dans le prétoire, une foule de journalistes, une vingtaine d'avocats et 17 personnes ou sociétés qui se sont constituées partie civile. Tous sont là, les yeux rivés vers le box des accusés dans lequel prennent place François Arpineau, 43 ans, et Gérard Roland, 36 ans. Poursuivi pour avoir participé au hold-up du Sofitel et avoir donné la mort dans le Grand Hôtel d'Avignon, ainsi que pour l'assassinat de Jacques Gouttenoir, les deux accusés n'ont cessé de clamer leur innocence depuis leur interpellation en septembre 1983, malgré les éléments et les témoignages recueillis en leur défaveur. Au cours du procès, ils continuent de nier toute implication dans les événements du 5 août. Leur stratégie et celle de leurs avocats, dont un certain Gilbert Collard, est de tout mettre sur le dos de Jean Roussel et de sa famille. La famille Roussel dans son ensemble est seule responsable de la tuerie du Sofitel. Jean Roussel père était présent à l'hôtel cette nuit-là, et le clan est capable d'exercer un certain nombre de pressions, affirme le conseil avant de lancer qu'il n'y a aucun avantage à vouloir trouver dans ce procès des coupables de substitution. Une sortie qui fait sortir de leur gond les parties civiles. Mais la défense se retrouve affaiblie dès le deuxième jour d'audience par le témoignage d'un ex-caissier péagiste d'un parking du centre-ville d'Avignon, situé non loin du Sofitel. Le 5 août 1983, alors qu'il circulait à vélo pour prendre son poste à 4h, une personne qui courait lui est tombée dessus. Lorsque le président lui demande s'il est capable d'identifier cet homme, il répond par l'affirmative « c'est François Arpineau ». Dans le box, Arpineau est blême de rage, Maître Collard doit le calmer. Le troisième jour, lui, est marqué par deux incidents en fin de matinée. D'abord, Arpineau soutient que les gendarmes et les policiers l'ont torturé au cours de ses gardes à vue. Ensuite, c'est son avocat, Maître Collard, qui exige le renvoi du procès à une date ultérieure. La raison, l'absence du père Roussel au procès, alors qu'il aurait dû être jugé en même temps que les deux autres inculpés. Le patriarche s'est gravement blessé lors d'une partie de pêche. Hospitalisé, son état a été jugé incompatible avec une comparution. Il fera face à la justice plus tard.
Maître Collard réclame donc Carpino et Roland comparaissent en même temps que Roussel père. Demande rejetée. Les jours se suivent, les témoignages s'enchaînent, les preuves s'accumulent, mais toujours pas d'aveu. Et le 18 juin 1987, après 6 jours de procès qui n'ont pas permis de lever tous les mystères, l'heure est au verdict. Le matin, le jury écoute attentivement la plaidoirie de Maître Gilbert Collard qui le met en garde. Le dossier ne permet pas de juger tranquillement. Si vous condamnez François Arpinault, vous laisserez en Espagne, en Italie ou dans un hôpital où un homme repose ses vertèbres les vrais coupables. Pendant 2 heures, l'avocat de la défense tente de démonter chaque pièce du dossier pour disculper son client, allant même jusqu'à plaider la machination policière. La plaidoirie est terminée, le jury se retire pour délibérer, le sort d'Arpinault et de Roland est désormais entre leurs mains. Les débats durent, la tension monte, et après 7 heures de délibéré, le plus long que la cour d'assises de Vaucluse ait connu dans son histoire, la sentence tombe. Gérard Roland est reconnu coupable pour la tentative de hold-up commise au Sofitel et pour complicité d'assassinat sur la personne de Gouttenoir. Il est condamné à 15 ans de réclusion. François Arpinault, lui, est déclaré coupable de la tentative de hold-up commise au Sofitel et de l'assassinat de Gouttenoir. Il écope de 18 ans de prison. Ils ne sont en revanche pas poursuivis pour les meurtres commis dans l'hôtel, faute de preuves suffisantes. Des peines lourdes, qui auraient pu l'être encore plus, bénéficiant de circonstances atténuantes de la part des jurés, les deux accusés échappent à la perpétuité, ce que les familles des victimes ont du mal à comprendre. 4 ans plus tard, en juin 1991, c'est au tour de Jean Roussel père de comparaître devant la cour d'assises de Vaucluse pour détention d'armes et complicité de vol aggravé. Après 2 jours de procès et 3 heures de délibération, le patriarche, désormais âgé de 70 ans, est finalement acquitté. La fin d'un long et éprouvant épisode judiciaire. Un sentiment d'inachevé, voilà ce qui ronge encore les personnes mêlées à ce dossier de près ou de loin 40 ans après. Magistrats, policiers, avocats, proches des victimes, pour eux, difficile d'effacer de leur mémoire ce 5 août 1983. Le temps passe, sans apporter l'oubli ni l'apaisement, même chez les principaux protagonistes. Jour et nuit, Arpinault parlait de cette affaire, se souvient l'un de ses compagnons de cellule. Il ne niait pas être l'ami de Roussel, mais a toujours nié être mêlé à la tuerie. Je me souviens d'un homme torturé qui fumait et buvait sans cesse. Sorti de prison, François Arpinault est décédé il y a quelques années dans un accident de voiture, emportant à son tour les secrets de cette nuit macabre. La tuerie du Sofitel, cette mort au 2e étage d'un hôtel d'Avignon, restera certainement à tout jamais un mystère.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.